BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bienvenue dans votre magazine Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va parler de comment attirer dans les métiers de la restauration, comment redéfinir cette notion d'attractivité avec quatre personnes. La première, ce sera Frédéric Comines, qui est la meilleure baguette de Paris 2022. Vous l'avez compris, il est boulanger-pâtissier. Ensuite, discussion croisée entre deux personnes. Un restaurateur, Stéphane Manigold, qui est aussi à l'UMIH et qui représente le secteur de la restauration Paris-Île-de-France. En face de lui, un professeur qui forme des jeunes gens au métier de la restauration. Il s'agira de Michel Arbrault, qui est professeur à l'école hôtelière de Paris, lycée Drouan. Et puis, pour finir cette émission et peut-être tirer des leçons pour des secteurs qui sont en dehors de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentaire, eh bien nous serons avec Flo Malbranche, qui est le cofondateur de Brigade. Restez avec nous, c'est tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
On démarre cette séquence avec un boulanger pâtissier. Sa boulangerie fabrique la meilleure baguette de Paris, du 92, mais plus globalement d'Île-de-France. C'est Frédéric Comines. Bonjour Frédéric.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Malgré une période remplie pour vous et vos équipes, vous êtes à la tête de trois boulangeries, deux dans Paris, une à Sceaux. Vous êtes à la fois boulanger et pâtissier. Racontez-nous votre journée type.
On démarre vers 3h du matin. 3-4 heures du matin, selon les journées. Et je fais le tour de mes boutiques. J'adore faire le tour de mes boutiques, aller prendre un petit peu le ton de mon personnel, savoir si tout va bien, vérifier si tout va bien aussi, parce que des fois, on ne me le dit pas. Et voilà. Après, je vaque mes occupations dans le labo. On fait de la recherche et développement pour les futures fêtes et toutes les occasions qu'on va avoir.
Aujourd'hui, vous êtes à la fois un boulanger, un pâtissier, un entrepreneur, un gérant de boutique. Et avec vous, on va parler de comment attirer dans vos métiers, dans les métiers de votre secteur. Vous avez démarré à 20 ans, c'est assez tard pour un boulanger. Aujourd'hui, on imaginerait que beaucoup de gens pourraient commencer avec l'apprentissage beaucoup plus tôt. Racontez-nous votre début de parcours.
Alors, 20 ans, c'est tard, mais c'est pas très tard non plus, puisqu'on a pas mal maintenant de reconversions. Mmh. Des gens qui attaquent à 22, 23, 24 ans, même un peu plus, des fois. Actuellement, on a une stagiaire qui est carrément, qui a une trentaine d'années et qui est en train de se former avec nous en ce moment même.
Est-ce que aujourd'hui, vous recruteriez, vous vous auto-recruteriez à 20 ans? Est-ce que vous auriez coché les cases de votre équipe?
Oui, franchement, oui. Voilà. Nous, on essaye vraiment de voir la personne. Globalement, à l'époque, je parle de ça, je suis pas vieux, mais il y a une vingtaine d'années, les employeurs cherchaient à avoir des jeunes de 16 ans pour payer moins de salaire, puisque c'est en fonction de l'âge et non du niveau de compétence. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Moi, je donne la chance à tout le monde. J'estime qu'avoir quelqu'un de 20 ans, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose dans la tête un petit peu plus que quelqu'un qui a 16 ans. Et on attend un peu plus de lui et généralement, il nous le rend bien.
Alors justement, l'apprentissage, c'est quelque chose que vous pratiquez quasiment au quotidien. Vous formez entre 20 et 30 personnes sur vos trois établissements. Si vous deviez nous résumer ce que ça vous apporte et ce que ça vous coûte en termes d'investissement, de formation, comment vous résumeriez?
Alors déjà, ça amène de la fraîcheur. Ça, c'est important. Quelqu'un qui nous pose une question parce qu'il n'est pas professionnel, c'est très important parce que ça nous permet nous aussi de nous remettre en question. Des fois, on peut dire il n'y a pas de question idiote, mais effectivement, ça marche souvent comme ça. Et du coup, nous, on aime bien former les jeunes. Alors, ça demande une débauche d'énergie énorme, notamment en ce moment, pendant les fêtes, parce que la nouvelle session d'apprenti est arrivée en septembre. Donc le temps qu'ils découvrent, enfin ils sont pas encore du tout opérationnels, donc du coup ils surnagent un petit peu et c'est un peu compliqué pour eux et pour nous parce que du coup on est un petit peu en effectif, c'est un peu compliqué. Par contre l'année prochaine, puisque souvent c'est des contrats de 2 ans ou plus, parce qu'il y en a qui continuent à se former encore après, la deuxième année ils sont opérationnels et moi je dis toujours qu'un bon apprenti c'est un bon ouvrier. Donc il ne faut pas le considérer comme un apprenti. Un apprenti qui, au bout de 2 ans, me dit « Mais monsieur, je suis apprenti », je lui dis « Non, t'es ouvrier depuis 2 ans. » Parce que tu ne deviens pas ouvrier le jour où tu as fini ton apprentissage. tu dois déjà l'être avant. Donc c'est ça qui est important. Et après, nous, ça nous permet de au niveau de notre développement, de conserver justement ces apprentis et puis de les investir un peu plus dans les entreprises.
Quand vous dites nous, on forme, qui mettez-vous dans les structures d'encadrement, dans vos équipes? Comment vous choisissez quelqu'un qui va former un apprenti?
Alors, c'est mes cadres. C'est-à-dire tous mes chefs pâtissiers, mes chefs de poste, mes sous-chefs, toutes les personnes qui travaillent chez nous sont qualifiées. Je parle en pâtisserie et en boulangerie. On a un boulanger qui est champion d'Europe. On a un pâtissier, mon chef pâtissier qui est actuellement en place, c'est un de mes apprentis qui a travaillé avec moi en tant qu'apprenti et maintenant il est responsable. Mon chef chocolatier, c'est aussi un de mes apprentis. Donc c'est tout ça, c'est des personnes qui sont garantes un petit peu de mon savoir-faire et de notre savoir-faire, puisque maintenant c'est le leur aussi. Et voilà.
Voilà, vous représentez un secteur qui a pas bu la tasse, mais comment dire, qui a pris cher, comme on dirait dans le langage familier. Vous êtes assez résilient. Néanmoins, vous me disiez en préparant cette émission que les RH, c'est votre problème principal, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a changé culturellement par rapport à quand vous êtes rentré dans le métier, quand vous accueillez ces jeunes gens et ces moins jeunes gens? Qu'est-ce qui a changé dans leur attitude, dans leur appréhension, dans leur peur?
Alors, déjà, moi, je viens de province. Je suis Picard, donc les mentalités parisiennes et en Picardie, c'est pas la même chose. En Picardie, vous quittez votre travail, vous êtes pas sûr d'en avoir un le lendemain. À Paris, vous quittez votre travail le lendemain, si vous êtes un peu débrouillard, vous avez un travail. Déjà, ça, c'est la première chose. Je trouve que ça a un petit peu évolué quand même, surtout dans le sens où dorénavant, les gens sont plus ou moins tenus par leur emploi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, ils peuvent quitter leur travail du jour au lendemain. On n'est pas en mesure de leur demander de rester. Même si nous, par exemple, si on voulait les licencier, on a des règles à respecter. Les salariés, s'ils veulent partir du jour au lendemain, ils peuvent partir et on ne peut rien dire.
Ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas quand vous avez démarré?
Tout à fait. Ouais.
Un mot quand même sur vos produits, parce qu'il faut nous suivre à la télé ou en vidéo si vous nous regardez en replay ou sur le web. Frédéric est venu avec plein de produits, beaucoup de pâtisseries de Noël, évidemment de circonstances. On peut admirer le travail de vos équipes, Frédéric, mais vous êtes venu aussi avec du pain, parce que je le disais en introduction, votre baguette a été élue la meilleure de la ville de Paris, 75-92 Île-de-France, on disait en plaisantant avant de démarrer l'émission. Qu'est-ce que ça pèse le pain aujourd'hui dans votre activité, dans votre business? Puisqu'on est sur une chaîne économique, je suis obligée de vous poser la question.
Oui, bien sûr. Le pain, c'est quelque chose de très important. Déjà parce que j'aime ça. Moi, je ne fais pas ce que j'aime pas. Le pain, c'est très important parce que c'est l'un des moteurs de l'entreprise. Nous, on a décidé de se servir local. On travaille avec les Moulins Bourgeois qui sont en Seine-et-Marne. Ils viennent nous former. On a un boulanger qui est champion d'Europe, comme je disais.
Donnez-nous son nom, ça fait deux fois.
Il s'appelle Damien Dedin.
Donc, salut.
Et du coup, le pain, c'est le moteur de l'entreprise. Demain, vous venez chercher une baguette parce qu'elle est bonne et vous repartez avec un petit sujet parce que vous avez trouvé ça mignon et vous avez envie de le croquer. Voilà. En fait, nous, notre but, c'est d'amener les gens chez nous avec le pain, avec une qualité de pain et de les tenter sur autre chose.
Est-ce que c'est compliqué de vendre du pain dans un contexte inflationniste où les gens font un peu plus attention à leur porte-monnaie?
Je pense pas, parce que c'est vraiment un des aliments de la base de notre alimentation. Le pain en France, c'est quand même quelque chose de culturel.
C'est pas quelque chose sur lequel on arbitre?
Non, j'ai pas l'impression.
Vous êtes à la fois à Paris dans le 15e, à Paris dans le Nord, du côté de Belleville, et puis à Sceaux. Quel est votre produit préféré dans tous vos établissements? Le produit que vous préférez?
Alors moi, c'est des produits vraiment classiques, mais j'aime un bon croissant, une bonne brioche, une bonne tradition. Voilà, c'est des produits simples, mais qui font toujours rêver, qui rappellent l'enfance, quoi.
Voilà, alors on vous renvoie évidemment dans les boutiques de Frédéric Comines et de toute son équipe, là, avec l'occasion de Noël. Pour ceux qui nous ont regardé en image, vous avez sans doute l'eau à la bouche, mais plus généralement, voilà, au quotidien, continuez à manger du pain, ça fait partie de notre culture. Merci beaucoup, Frédéric Comines, d'avoir répondu à nos questions en tant que boulanger et en tant qu'entrepreneur.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
On va tenter de répondre à un sacré problème avec nos deux invités. Comment attirer dans les métiers de la restauration en 2023? On va essayer de tirer quelques conclusions et surtout, eh bien, vous donner des bonnes pratiques qui pourraient vous servir peut-être même si vous n'êtes pas dans un secteur comme la restauration ou l'hôtellerie, mais qui connaît aussi des pénuries. Deux invités. Le premier, c'est Michel Arbrot. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous venez du côté éducation. Vous êtes professeur à l'école hôtelière de Paris et lycée Drouan. Avec vous, on va être au plus proche des élèves, des étudiants et de la formation. Et en face de vous, Stéphane Manigold. Bonjour Stéphane.
Bonjour l'équipe.
Restaurateur, mais aussi président de la branche restauration de l'UMIH Paris-Île-de-France. Deux personnes, deux pieds ancrés dans la réalité économique de la restauration, mais forcément avec une vue différente. Michel, vous êtes venu avec une étude qu'on va décortiquer très rapidement avec vous pour démarrer. Une étude avec deux mots-clés, évidemment, entrée sur le marché du travail et puis qualité de vie. C'est une étude qui essaye de comprendre les aspirations des gens en formation qui s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail, hôtellerie, restauration, on va dire. Que faut-il retenir de cette étude ?
Eh bien, il y a je vais prendre du côté des étudiants et des étudiantes de notre école. Il y a une forte aspiration au travail, ça c'est une chose avérée. Et ils y tiennent, ils sont, pour la plupart, pour la totalité d'entre eux, heureux de pouvoir entrer dans l'hôtellerie et restauration, avec une vraie volonté de changement tant dans l'organisation que dans le cadre du travail. Ils ont des aspirations claires. Ils émettent, dans une étude qui a été menée par eux d'ailleurs, uniquement par eux, ils ont mis en avant des vraies craintes et des vraies volontés. Volonté de s'impliquer complètement, mais volonté de respect, d'échange et d'un équilibre de vie personnelle et professionnelle qu'ils puissent défendre et dans lequel ils puissent s'y retrouver, tout comme certaines valeurs qu'ils ont mis en avant.
Cette étude, elle est présentée par le Lab Attractivité et c'est un baromètre de l'entreprise Qualitéis. Évidemment, le sous-jacent, c'est la qualité de vie. Alors chez vous, on cuisine plus au gaz, plus forcément au gaz chez vous, Stéphane Manigold, mais peut-être que dans d'autres restaurations, pas forcément la restauration de luxe, on utilise encore le gaz.
Alors, deux points. Déjà, en premier lieu, effectivement, le gaz reste, même si c'est une transition nécessaire pour évoluer vers d'autres types de cuisson. D'autre part, et bienvenue à l'école, dès que vous le souhaitez, nous avons une cuisine entière où on leur apprend aussi à travailler à l'électrique, puisqu'on les forme aux deux différents types de cuisson.
C'est, moi, ce que je vais retenir, c'est que 91% des élèves donc, qui ont suivi leur cursus dans les écoles eh bien, veulent travailler dans le secteur après leurs études. Et ça, c'est une volonté au moins pendant 5 ans.
Cette envie de travailler que vous évoquez, Michel.
Oui, parce
cette aspiration au travail.
On ne découvre pas que dans la restauration, on se lève pour travailler quand nos convives s'installent pour se reposer et profiter des plaisirs, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Donc nous, c'est une particularité. Donc quand on choisit cette voie, on ne la découvre pas. Et je crois qu'on fait un mauvais procès à la restauration, notamment dite traditionnelle. Pourquoi ? Parce que vous avez une espèce de mélange de la restauration. C'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ces 90 milliards, vous avez 52 milliards. C'est les fast-foods. Et donc on est noyé au fond dans cette restauration un peu trop générique. Moi je suis par exemple pour de la transparence, comme en Italie par exemple, lorsque vous allez sur Uber Eats, Deliveroo ou dans un restaurant, lorsque vous ouvrez votre menu, et bien lorsque c'est industriel, lorsque c'est surgelé, ça doit être indiqué.
Il faut de la transparence. On commence à le voir en France.
Ah non, mais en France on a 15 000 labels, on est obligé de sortir la fanfare lorsqu'on fait bien et lorsqu'on fait maison. Vous avez le petit label. Et bien moi je pars du principe que quand on fait bien, c'est normal. Quand on va dans un restaurant et qu'on fait bien, c'est normal. Et d'ailleurs je suis convaincu que l'éducation nationale peut pousser en ce sens où il faut qu'on célèbre un peu mieux le savoir. Et je vais reprendre un exemple qui est un concours, fabuleux concours de l'éducation nationale qui s'appelle Meilleur ouvrier de France. Et bien nous avons la chance dans mon groupe d'avoir formé, accompagné un jeune qui vient d'être titré cette année meilleur ouvrier de France. Eh bien, vous savez quoi ? L'éducation nationale ne voulait pas célébrer ces personnes. Pourquoi ? Parce que l'éducation nationale considère qu'il faut aller devant un tableau d'affichage et vous allez regarder sur ce tableau d'affichage si vous avez votre diplôme ou non. Eh bien, je crois qu'il faut célébrer l'excellence française, il faut célébrer le diplôme, il faut arrêter de se cacher ou afficher simplement, je dirais, un diplôme. Ça commence par là, l'attractivité. Ça commence par la reconnaissance. Vous vous rendez compte quand vous êtes meilleur ouvrier de France. Quand vous avez Alain Ducasse qui est président des meilleurs ouvriers de France et qui annonce votre nom, c'est une magie incroyable pour nos enfants, pour nos gamins qui rêvent de ce titre. Mmh. Et l'éducation nationale, par exemple, elle veut plus de ça. Elle veut envoyer un vulgaire mail à nos enfants. Donc, il faut aussi que ça change du côté éducation nationale pour avoir une meilleure attractivité.
Michel, sans faire le procès de l'éducation nationale, est-ce qu'on pourrait nous aider à verbaliser aujourd'hui, à la tête d'une école, quels sont les plus gros problèmes que vous avez ou les choses sur lesquelles on pourrait, le monde économique après l'école pourrait vous aider pour mieux installer vos étudiants, vos étudiantes dans ce monde du travail, faciliter un petit peu votre tâche de transition, puisqu'on reproche souvent, pas d'ailleurs que dans les métiers dans la formation hôtelière ou restauration, l'éducation nationale d'être un peu trop à côté de la réalité terrain. De quoi avez-vous besoin et qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message dans les quelques minutes qui nous restent?
Juste pour très rapidement représenter les choses, les diplômes ont été revus en collaboration avec les syndicats de restaurateurs et d'hôtellerie. Je ne veux pas rentrer dans une polémique ni dans des débats. Bien entendu, l'éducation nationale avance. Je ne parlerai pas de l'éducation nationale, je parlerai de l'école.
Parlez de votre école.
Qu'en aucun cas je ne dirige, je ne suis qu'un des représentants de cette école. Et nous accompagnons de façon permanente nos élèves, un, sur des évolutions de technique, deux, lorsqu'ils participent effectivement à des concours. La remise se fait de façon...
Mais c'est trop scolaire, là, pardon.
Mais Michel, répondez à ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous, votre école, elle joue mieux son rôle d'inscription dans le monde économique des gens que vous formez?
Alors, nous travaillons, et la preuve en est pour cette réflexion que nous menons avec des hôteliers et des restaurateurs. Nous avons mené cette réflexion avec eux sur comment faire évoluer les possibilités du cadre du travail, de l'organisation du travail. Ce sont des tables rondes qui sont menées avec des professionnels. Ensuite, nos étudiantes font tout autant des stages que des périodes de formation en entreprise selon le cursus. Et nous travaillons et nous le souhaitons et nous voulons le développer main dans la main avec le terrain. Puisque même si nous organisons nos propres productions, nos propres travaux pratiques, que dans les trois
envoyez-nous
métiers
tous ces gamins, on va les former dans nos entreprises. Ils seront mieux assurés la théorie. Envoyez-nous plus souvent dans l'entreprise, qu'ils soient beaucoup plus présents. Vous savez, moi je suis pour célébrer l'intelligence de la main. C'est un outil formidable. Il faut sortir de ce cliché où quand on travaille mal à l'école, on
va faire une école hôtelière. Est-ce qu'on est en train de dire que du coup, la formation, elle peut se faire uniquement dans le monde de l'entreprise? Est-ce que ça s'applique à la restauration? Mais je pense à l'industrie, je pense à la chaudronnerie qui aussi a beaucoup de mal à recruter. Est-ce que le passage à l'école, tant du point de vue du candidat que du point de vue du recruteur, aujourd'hui, est le moyen le plus rapide d'arriver à un job qui paye et qui permet d'avoir une carrière devant soi?
Je pense qu'il y a les deux. Ça ne correspond pas à un schéma unique, ni l'apprentissage, ni ce qu'on appelle l'enseignement initial. Ça correspond à chacun des caractères des étudiants. Il y a ceux qui ont besoin de l'apprentissage, et l'apprentissage a toute sa raison d'être, et il y a ceux qui ont besoin d'un enseignement qui est tout autant pratique, entrecoupé avec des stages et des travaux pratiques, pour pouvoir eux-mêmes se former. Ce sont deux caractères, ce sont deux aspirations différentes, et on rencontre effectivement ces deux types d'étudiants.
En tout cas, si je peux me permettre, ne mettez pas dans la tête de nos gamins qui vont travailler moins pour gagner plus. Ne leur mettez pas à l'esprit qu'ils vont travailler 4 jours.
Je crois qu'il
n'y
a pas besoin d'une école pour faire ça. C'est la société globalement qui participe quand même à appliquer.
Oui, mais dans ce cas-là, on peut être d'accord pour donner plus de confort. La semaine des 4 jours, c'est possible. Il y a des restaurants qui l'ont fait. Le restaurant de Joël Robuchon qui est ouvert 7 jours sur 7 à Paris, eh bien, ils sont déjà sur la semaine des 4 jours. Ils n'arrivent pas à recruter. Donc c'est un faux débat. C'est faux de considérer qu'on va améliorer. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la demande des candidats. Eux, ils disent une bonne rémunération, évidemment, mais à 52-80%. On n'est pas sûr du 100%. On pourrait considérer que c'est 100% des personnes. L'intérêt de l'activité, 51%. Moi, je note tous ces pas de vie de famille, 52%. Alors, on peut aménager. Effectivement, il faut laisser au chef d'entreprise cette possibilité d'adapter aux collaborateurs son bien-être. Et croyez-moi, moi, je fais partie de la nouvelle génération. Je condamne petit un la violence en cuisine qu'il y a eu, qu'elle soit en cuisine ou en salle. Je la balaye parce que c'est à cause d'elle aussi qu'on a des problèmes de recrutement. Ça, je le condamne. Mais les professeurs, il faut aussi accompagner les élèves, venir dans nos entreprises, venir là où le gamin est, pour voir à quel point on s'en occupe. Et ceux qui sont mauvais élèves, il faut les radier de la carte. Il y a des anciens grands chefs, je ne veux pas faire ici le procès, qui ont pas forcément bien traité ces gamins. Eh bien, moi, je le condamne. Il faut que vous arrêtez d'envoyer. Là, vous savez pertinemment qu'ils seront maltraités. Il faut arrêter de les envoyer. Envoyez-les. Créons ensemble, tiens, une charte de l'apprenti pour qu'on puisse mieux accueillir ces gamins et mieux les former.
Deux points. La première, si je peux me permettre une réponse. D'abord, nous sommes sur le terrain. Nous allons régulièrement à la rencontre des hôteliers-restaurateurs. Et je tiens à préciser qu'en aucun cas, nous avons, au travers de l'enquête que nous avons menée avec Qualitélis, en aucun cas, nous avons dit que c'était la solution, les solutions,
des
tout ce qui ressort.
Des pistes de réflexion.
Par contre...
Prenez-la, mettez-la à la poubelle et venez sur
le
terrain.
Par contre, ce sont des pistes de réflexion qui ont été menées par des hôteliers, par des restaurateurs, qui, pour certains d'entre eux, ont mis cela en œuvre au sein de leur propre entreprise, qui ont fait partager leurs connaissances et leur propre expérience.
Petite précision, pardon, 60% des personnes qui ont répondu, ce sont des salariés. Seuls 40% sont des patrons qui ont répondu. Donc, elle, pour moi, elle n'est pas représentative.
Messieurs, je suis obligée de vous arrêter là parce que malheureusement, nous avions aussi un temps imparti. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous renvoie à ce baromètre qui, même si vous n'êtes pas dans la restauration, peut vous alimenter, disons, la réflexion, votre réflexion sur le rapport au travail et à la qualité de vie. C'est le baromètre Labrattractivité et Qualitélis. Hein, il est d'octobre 2022. Voilà, vous voyez, le débat mériterait, la discussion mériterait une demi-heure de plus. On a posé quelques bases. Merci à tous les deux. Merci Michel Arbreau, professeur à l'école hôtelière de Paris, lycée Drouan. Et merci Stéphane Manigold avec une double casquette.
Ça, c'est bien. Les étudiants, c'est eux qu'il faut écouter. Tout le
voilà,
reste,
écoutez,
c'est du blabla.
Regardez cette étude qui est en deux parties, effectivement, avec aussi la parole aux étudiants. Je finis sur votre titre, Stéphane Manigold, hein, président de la branche restauration de l'UMIH Paris-Île-de-France et puis restaurateur. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
On va continuer à parler des métiers de la restauration et des difficultés des entreprises et des entrepreneurs avec Florent Malbranche. Bonjour Florent.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Brigade. Comme le nom l'indique, on est proche de la restauration, mais pas que. Vous servez les entreprises, vous les aidez à trouver les bonnes personnes pour venir étoffer les équipes. Vous faites ça historiquement, effectivement, dans le secteur de la restauration, mais vous avez élargi vos activités, notamment au secteur médico-social. On parlait d'attractivité juste avant vous, avec Stéphane Manigold et Michel Arbreau, professeur à l'école hôtelière de Paris. L'attractivité, c'est ça, tout le sujet.
L'attractivité, c'est faire rentrer des talents dans une industrie et deuxièmement, les garder. Et donc l'attractivité, pour moi, c'est une composante de trois éléments. Le premier, c'est les conditions de travail, extrêmement important. Donc ils en ont parlé avant. C'est évidemment les horaires. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible et important dans la restauration. C'est évidemment tout ce qu'on a pu entendre de gestes déplacés, de violences en cuisine, qui sont évidemment des comportements à bannir. Deuxième point, et ça, c'est un sujet qu'on ne met pas suffisamment sur la table, c'est celui de la rémunération. Et la rémunération, c'est très important. Et le troisième, c'est l'évolution. C'est le fait de pouvoir se projeter dans un secteur qui, en plus, est un magnifique secteur d'évolution sociale. En fait, tous les chefs le disent, généralement, on démarre en bas et puis on monte les échelons petit à petit. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on traite le sujet de l'attractivité point par point, en fait. Donc on va trouver des contre-exemples à droite, à gauche.
Les trois points, vous venez d'identifier isolés, en fait.
Alors qu'en fait, quelqu'un qui va se dire « je vais faire ma carrière dans la restauration » a besoin d'être assuré sur ces trois éléments-là. Et si on ne les a pas, et bien c'est un secteur qui n'est pas attractif. Et malheureusement, c'est mon avis en tout cas, on ne traite pas le sujet correctement jusqu'à présent.
On parle beaucoup de la restauration. On a l'impression que ce secteur hôtellerie, café, restauration cristallise tous les problèmes liés à l'attractivité et les trois composantes que vous avez listées, hein, les perspectives d'évolution, les conditions de travail et puis évidemment le salaire. Mais en fait, ce qu'on est en train de se dire depuis le début de l'émission, ça concerne tous les secteurs. Vous confirmez, vous, qu'il y avait un pied dans plusieurs secteurs ?
C'est vrai qu'on a tendance à faire la restauration, se fait un peu son silo, son cas. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui a des particularités, hein, ça c'est évident, mais en fait tous les secteurs ont des particularités. On est dans un monde du travail où les rapports au travail évoluent. On a une nouvelle génération qui le dit, hein, je n'aurai plus un rapport sacrificiel au travail. C'est-à-dire que mon travail va composer avec ma vie privée. Et ça, toutes les industries, tous les secteurs, tous les métiers doivent composer avec. Et on a des secteurs qui ont fait cette mue il y a une dizaine d'années, notamment tout ce qui va toucher au numérique, où il est complètement habituel de mélanger les formes de travail, des salariés, des indépendants qui vont intervenir, interagir ensemble. On a la santé et la restauration, qui sont les deux secteurs emblématiques de la crise du recrutement, des difficultés de recrutement. Et en fait, ce sont deux secteurs qui ont du mal à faire cette mue pour différentes raisons, mais ce ne sont pas des cas particuliers. Et ça, c'est important. Il faut arrêter de dire nous, la restauration, nous, la santé. Non, en fait, c'est un monde du travail qui évolue et ils doivent trouver de nouvelles solutions.
Pour conclure, pour vous, le sujet plus que jamais crucial, c'est le salaire. Quelles sont les recommandations que vous pourriez donner aux gens qui se tourneraient vers vous en 2023 par rapport à ce salaire dans le contexte d'inflation et voilà, de cristallisation du sujet qu'on connaît ?
C'est pas le sujet, justement, c'est pas le sujet crucial, c'est un des trois sujets. Le sujet de la rémunération, bah, il est évident, en fait. Quand on entend, nous, on a des témoignages de personnes qui, malheureusement, nous disent « j'ai du mal à vivre, je m'éloigne de plus en plus de mon lieu de travail, j'ai entendu des gens qui disaient « je dors dans ma voiture pour être au plus proche de mon lieu de travail », il y a un problème, en fait. Il faut arrêter de penser ces métiers. Enfin, moi, je trouve qu'on les pense trop en descendant. C'est-à-dire, j'ai tel budget, donc en fait, je vais te payer tant. C'est un petit peu, enfin, quand on construit une entreprise dans l'autre sens, c'est-à-dire ça va me coûter tant, puis à la fin je vais répercuter les coûts, je vais avoir un prix pour mes clients. Et en fait, j'ai un petit peu envie qu'on inverse en fait cette logique-là, qu'on redonne de l'importance, en fait, la valeur d'une entreprise, que ce soit un restaurant, que ce soit un EHPAD, que ce soit une maison de retraite, sont ses salariés, sont les gens qui vont faire le cœur de la culture, qui vont rendre
dans le service. À la fin, on reste pour les gens qui nous servent.
Et c'est le mot justement que je venais de dire, c'est service. Et donc ces gens-là, faut les valoriser, ces gens-là, faut les retenir. Et la rémunération est évidemment un point extrêmement, extrêmement important.
Voilà,
mais pas que.
Le salaire, un sujet crucial, mais pas que. L'attractivité, une bonne définition. Voilà, Florent, je reprends ce que vous disiez. Hein. Les perspectives d'évolution, les ressources et puis évidemment toujours les conditions de travail. Merci beaucoup d'avoir augmenté ce débat de tout à l'heure pour qu'on comprenne un peu mieux comment aussi ça peut vous concerner, quel que soit votre secteur. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Happy Boulot, le MAG. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Et puis retrouvez-nous évidemment comme toutes les semaines en vidéo à la demande sur notre site, en podcast sur toutes les plateformes et puis en direct aussi peut-être à la radio et à la télé. Très bonne semaine.
BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.